Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Le téléphone sonne, quelques mots, et tout bascule. Le téléphone sonne, quelques mots, et l'avenir se met à tanguer. On en a tous peur, non? De ce coup de fil cataclysmique qui remet tout en question. Je sais pas vous, mais moi je fais partie des gens qui n'osent jamais se dire « Ok, là, tout va bien ». Parce que en fait, j'ai l'impression qu'à l'instant où ces mots résonneront dans ma tête, quelque chose va foirer. Comme si le fait de constater mon bonheur ou mon succès allait à tous les coups me porter malheur. Pour contrer ça, je me répète souvent la fin d'une fable de La Fontaine qui s'appelle « Le cochon, la chèvre et le mouton » et qui dit « Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne changent le destin et le moins prévoyant est toujours le plus sage. » Simon n'avait pas prévu que sa vie allait basculer. Ce fut sans doute plus sage. Merci d'être là et bienvenue dans Sillage.
C'est le 5 avril 2013. Je suis en visite à ce moment-là à San Paolo, puisqu'on a un bureau commercial depuis un an là-bas. Et après 11 heures d'avion, on atterrit, on arrive sur le tarmac, on passe la douane, et à ce moment-là, je rallume mon portable et j'ai des dizaines et des dizaines de textos et de messages et d'appels en absence. Et ça me glace le sang parce que je me dis, j'ai jamais eu ça de ma vie, et je me dis, s'il s'est passé quelque chose de terrible, mon père ou ma mère est mort. Bref, donc je suis un peu pétrifié, j'attends quelques minutes avant d'oser ouvrir les textos. Et en fait, c'est des messages de tous mes associés qui cherchent à me joindre depuis des heures et des heures pour m'apprendre que l'application qu'on édite a été déréférencée de l'App Store, et ça remet en cause à ce moment-là effectivement les 4 années de travail acharné, toute l'équipe qu'on a rassemblée de presque 100 personnes et la levée de fonds qu'on vient de faire et des années de travail. Quand j'ai eu 6 ans et ma sœur 4, mes parents nous ont emmenés faire un tour du monde en bateau de presque 4 ans, une grande partie en mer à naviguer. Donc tout CM1, CM2, collège, lycée, c'était des années où j'ai eu un peu de mal, je crois, à me réinsérer dans le système scolaire. Et ça a fait de moi quelqu'un, effectivement, très, très tourné très tôt vers Internet qui arrivait à ce moment-là. Il y a un jeu multijoueur en ligne qui est un immense succès mondial, qui s'appelle Counter-Strike. Je fais partie d'une équipe. On fait des compétitions en ligne. En fait, assez rapidement, je pense au bout d'un ou deux ans, je me lasse de passer 10 heures par jour à jouer, mais je me passionne vraiment pour tout ce qui est l'organisation des activités sociales de mon équipe. Et je finis par rencontrer deux mecs qui commençaient à créer ce qu'allait devenir les forums les plus populaires autour de Counter-Strike à l'époque. Et ensemble, on va créer une nouvelle version du forum qui va s'appeler esfrance.net, et on va organiser ce qui était une des premières compétitions, une des premières ligues en ligne. Après que l'aventure ES France se soit arrêtée, moi j'avais recommencé un cursus à la fac, là où étaient un peu mes premiers amours, en lettres modernes. Et ensuite je suis pris en parallèle, en cours de 4e année, je suis pris au CELSA, où je fais un cursus de marketing et ensuite de formation au multimédia. Et en fait, en parallèle de ces études-là, je fais du consulting pour plein de startups différentes. Et ensuite, je fais un stage déterminant chez Virtuose. Et Virtuose, c'est une boîte très intéressante. C'est un des pionniers français, peut-être même mondial, de l'intelligence artificielle appliquée au marketing. Et à la fin de mon stage, ils me disent « Bon, écoute, Simon, on sent que t'es un passionné. » T'as un peu de potentiel, Mais si tu veux vraiment continuer à t'améliorer, il ne faut pas que tu restes en Europe, il faut que tu partes dans la Silicon Valley. Et je finis par réussir à obtenir un stage à San Francisco dans une agence qui s'appelle Creative Feed, fin 2007. Et je vais rester un peu plus d'un an et demi à San Francisco. J'ai la chance d'être là en 2007-2008, où en fait il y a coup sur coup deux plateformes technologiques qui vont s'ouvrir et créer des aspirations assez fades, des bouches d'air très fortes pour les gens qui veulent entreprendre. En 2007, il y a la plateforme de Facebook, Facebook Apps. Alors là, je commence mon stage, donc j'ai pas vraiment la possibilité de tout plaquer pour aller créer des applications Facebook, mais j'ai des copains qui créent des apps Facebook et qui font plus ou moins fortune et qui s'éclatent. Et en fait, l'année d'après, effectivement, il y a Apple qui lance l'App Store, qui avait lancé l'iPhone en 2007, l'App Store en 2008. Et en début d'année, j'ai un copain qui travaille chez Apple qui me dit « Simon, tu devrais regarder parce que dans mon équipe, on crée quelque chose qui s'appelle le SDK qui va permettre à n'importe qui de créer des applications et les distribuer sur l'iPhone. » Donc je commence à regarder le SDK et avec une team de copains, dont ce copain qui bossait chez Apple, on commence à créer une première application, une sorte de jeu qu'on compte distribuer dans l'App Store dès sa sortie en août 2008. Et en fait, mes plans ont été un peu contrecarrés par la crise économique des subprimes. La société qui m'employait à ce moment-là, à cause de la crise, ils ont licencié massivement une cinquantaine de personnes très très vite, dont moi. Et donc en fait, j'ai dû rentrer en France un peu en catastrophe, alors que vraiment, moi, je m'étais installé à San Francisco. J'y habitais, j'y menais une vie plutôt sympa, je me voyais pas rentrer et j'ai dû rentrer un peu en catastrophe. J'ai eu 10 jours pour revenir à Paris. Du coup, début 2009, j'ai pas grand chose à faire, donc comme je veux pas perdre la main et me couper de ce secteur, je lance un blog, tout bêtement. Un blog de test d'application où je vais tester 2-3 applications par jour et écrire un petit compte-rendu. Et ce blog, assez rapidement, occupe tout mon temps. Je fais que ça pendant presque plus d'un an. Et en fait, début 2010, ça s'accélère. Je commence à avoir des dizaines de milliers de lecteurs par jour. Je commence à vendre des campagnes de publicité pour les applications qui sortent. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et c'est là où je me pose la question de créer, en complément du blog, quelque chose de, on va dire, un nouveau format qui permettrait de donner une meilleure visibilité que mon blog ne le fait déjà à une application par jour. Et en avril 2010, je crée la newsletter des apps gratuites, que j'appelle App Gratuite, et qui va être un modèle un petit peu complémentaire au blog et qui va être une newsletter par jour, ne mettant en avant qu'une seule application. Et la particularité, c'est que je vais directement contacter les développeurs et leur demander de rendre leur application gratuite pour la journée d'exposition que je vais leur procurer en échange de la visibilité. Et ça, c'est un modèle qui prend très vite, en fait, très fort. Et ce qui va vraiment marquer le coup d'envoi un peu de la success story d'App Gratis, c'est en octobre 2010, où en fait, on lance l'application App Gratis dédiée au service, qui donc va remplacer la newsletter. On distribue l'application dans l'App Store. Elle devient première du classement instantanément grâce à la communauté qu'on avait déjà. On finit l'année, j'ai l'impression qu'on est leader sur le marché français, qu'on a réussi et que c'est bon, quoi. Parce que je suis quand même un peu fatigué. Ça fait presque 3 ans que j'ai lancé le blog et j'ai l'impression d'être arrivé. Ce qui est très subjectif, mais j'ai l'impression que ça y est, le succès est là, quoi. Donc je m'endors un peu sur mes lauriers, je crois, en fin d'année, alors que la bonne logique voudrait qu'on lance le concept dans plusieurs pays et puis qu'on mène un développement international. Mais j'ai un coup de mou, je me dis, bon, on est numéro 1 en France, ça suffit. Et en fait, en décembre, ou en novembre, je sais plus, novembre ou décembre 2011, mais vraiment en quelques jours, il y a un concurrent qui nous copie mot pour mot et pixel pour pixel et qui lance exactement le même service en Italie et qui, en quelques semaines, reproduit le succès qu'on a eu en France et devient numéro 1 sur le marché hyper vite. Et là, on est un peu mortifié d'avoir laissé passer l'opportunité. Et du coup, début 2012, on lance de manière effrénée App Gratis dans plein de pays. On se met à traduire la partie éditoriale en plein de langues, en espagnol, en brésilien, en allemand, en anglais, en chinois, en coréen, on lance de manière effrénée une dizaine de pays à la fois, en se disant c'est pas possible, c'est nous qui sommes les inventeurs de ce concept-là. Il y a aucune raison qu'on se le fasse piquer. Le lancement des premiers pays se passe très bien. Le chiffre d'affaires, on fait plus de 200% par mois. Enfin, c'était dingue, c'était une année de croissance incroyable. Donc en fin d'année, on finit par signer une levée de fonds de 10 millions d'euros. Mais à un moment donné où en fait la boîte génère déjà vraiment énormément de chiffre d'affaires, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Je commençais presque à vivre la vie des grands patrons où si je voulais une interview, je demandais à mon agence de RP de contacter une rédaction et ça les intéressait de m'interviewer. Si je voulais rencontrer un autre grand patron parce que je voulais faire un partenariat industriel, j'envoyais un email et j'avais le rendez-vous. À ce moment-là, j'ai eu des rendez-vous avec des hommes politiques qui s'intéressaient à la success story d'App Gratis et qui voulaient potentiellement la partager. Enfin, il y a eu effectivement 5-6 mois où c'était quelque part génial d'être le patron de cette boîte et d'être le fondateur parce que la boîte était magique, elle cartonnait, donc tout le monde voulait un petit peu de ce succès-là, et moi je pouvais rencontrer qui je voulais. Et ça c'était hyper grisant. Ouais. Et là, effectivement, tout à fait selon la mythologie d'Icare, on s'était approché un peu trop près du soleil et on s'est brûlé. Avril 2013, donc, on avait. Donc j'étais allé faire l'annonce de la levée de fonds aux États-Unis. Et on est arrivé vraiment leader instantanément sur ce marché de la promotion d'applications. En quelques mois, toutes les applications qu'on mettait en avant soudainement se retrouvaient premières des classements aux États-Unis. On est arrivé sur les radars, notamment d'Apple, de manière hyper rapide et hyper probablement violente. Et voilà, et je sais que la semaine précédant le déréférencement, donc fin mars 2013, il y a eu une réunion chez Apple un vendredi matin, le App Store Meeting, où Phil Schiller, qui est le CMO d'Apple, le directeur marketing d'Apple, a dit App gratis no more. Parce qu'effectivement, App gratis, c'était devenu un App Store dans l'App Store, qui menaçait de devenir un App Store plus influent que le vrai App Store, et ça, pour Apple, c'était impossible à accepter. Alors effectivement, j'atterris à San Paolo, je reçois ces dizaines de messages, j'ai la peur, j'ai la frayeur de ma vie qu'il soit arrivé malheur à quelqu'un de ma famille. C'est pas le cas, j'apprends que l'application a été déréférencée. À Paris, c'est le choc et la stupéfaction. Donc moi, j'avise sur place, je passe la nuit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le week-end, j'étais arrivé un vendredi, dans le week-end, en fait, la nouvelle du déréférencement d'App Gratis sort dans la presse anglaise. Dès le dimanche, c'est repris par un journaliste dans TechCrunch, qui est un des plus gros blogs technologiques américains. Ça part en traînée de poudre. Et en fait, dès le dimanche, je vois des dizaines et des dizaines d'articles sortir dans la presse américaine, anglaise, les premiers blogs en France en parlent. Et à ce moment-là, je reçois en fait un email automatisé d'Apple qui me dit que je vais avoir un coup de fil avec le patron de l'App Store. Ce qui se passe en fait quelques heures plus tard, il m'appelle depuis Cupertino. Et là, effectivement, j'ai pendant 30 minutes une personne au téléphone très catégorique avec qui j'essaie de négocier mais qui referme la porte sur toutes mes tentatives de négociation et qui m'explique que voilà, c'est fini, la décision a été prise, mon application va être supprimée de l'App Store et je peux absolument rien faire. Et au bout de 30 minutes et une seconde, le coup de fil s'arrête et donc moi je saute dans un avion pour Paris et je reviens et je m'en trouve au bureau dès le lundi matin pour un premier conseil de guerre. On est contacté par Bercy, par Flore Pellerin, qui est ministre du numérique, et qui, en fait, souhaite faire une intervention dans nos bureaux sur le sujet de la neutralité du net à la faveur du fait divers Apple App Gratis. Là, c'était vraiment le bordel dans le bureau. Il y avait toute l'équipe, il y avait des centaines de journalistes, tout le staff de Fleur Pellerin. On avait des grands bureaux, mais vraiment, il y a eu un moment un peu surréaliste où des centaines de personnes s'affairent dans tous les sens et toi, t'es au milieu de ça et tu sais pas du tout ce qu'il y a. Tu subis complètement l'événement. Et là, à la suite de ça, il y a vraiment eu 10 jours de folie furieuse où chaque seconde qui passait, il y avait un article qui sortait sur nous. Donc, c'est quelque chose de très violent. De très traumatisant en soi, parce que t'es complètement le jouet d'un environnement médiatique. Tu peux rien faire, c'est-à-dire que t'es le sujet de la semaine, donc les gens s'emparent de toi, racontent à peu près tout et n'importe quoi sur toi. Et en même temps, je suis épuisé, je fume 3 paquets de cigarettes par jour, je commence un peu à débloquer, je pense, parce que 3 semaines, je suis très très épuisé nerveusement, donc je commence à avoir, tu vois, les signaux vitaux qui s'amenuise, je vois, j'entends mal, je raisonne mal, je dors debout. Ouais, au bout de 3 semaines, je suis vraiment très très fatigué. Et en fait, ça coïncide avec le moment où en fait, notre histoire se met à plus intéresser personne parce qu'elle a été traitée et retraitée pendant 3 semaines. Et comme il n'y a pas de nouveau développement, et ben en fait, à ce moment-là, on rentre dans la phase qui a été la plus dure pour moi, qui est la phase de l'oubli total, où en fait, après ces 3 semaines-là, pendant presque un an, et bah, tout le monde va rester avec l'impression, avec la perception qu'en fait Abgratis est mort. Donc tout le monde se dit inconsciemment, bah, Simon, il est mort. Il n'existe plus, sa boîte, elle s'est fait souffler. Et en fait, ouais, je rentre dans une phase où effectivement pendant un an, plus personne ne va répondre ni à un seul de mes emails, ni à un seul de mes coups de fil. Où plein de gens vont quitter la boîte parce que l'aventure, globalement, elle se termine, et la boîte périclite, et où, effectivement, ouais, de CEO un peu star d'une boîte qui était en pleine ascension, je deviens le paria, quoi. Je suis obligé de faire bonne figure et d'aller quand même au bureau le matin et de prétendre que je travaille, mais en fait, je passe mes journées à rien faire, je prends aucune vraie décision... À ce moment-là, c'est vrai, heureusement que j'ai mes associés, hein, qui tiennent la boîte au day-to-day et qui se substituent à moi, hein, et sur lesquels je vais vraiment m'appuyer pendant un an. Je me remets à bouquiner, j'ai pas lu un bouquin depuis 3 ans parce que j'ai pas eu le temps. Je me remets à faire du sport, j'arrête de fumer parce que je fumais 2 paquets par jour. Je fais, comme on dit dans les magazines, je prends soin de moi. Je voyage un peu pour me sortir la tête du bureau, je prends un peu de vacances. Donc je mets en place les conditions d'une sorte de petite rémission physique et intellectuelle. Quand je reviens de ce petit break, ce que je dis à l'équipe, c'est... on va lancer 4-5 projets et on va voir celui qui marche le mieux et on arrêtera tous ceux qui ne marchent pas. Et en fait, l'idée qui a le mieux marché, ça a été en fait de redévelopper une technologie qu'on avait nous-mêmes développée en interne pour Abgratis, qui était une technologie de notification push, qui sont ces messages que les smartphones nous envoient. Au début, ça a été très dur. Il y a plein de gens qui se sont dit, c'est son nouveau projet, ce mec-là est maudit, son produit est trop dangereux. On ne peut pas bosser avec lui, de toute façon, personne s'en sert encore, on ne veut pas essuyer les plâtres. Donc, la première année de commercialisation a été très dure. On a eu plein de meetings très difficiles où on se faisait effectivement rebarrer assez durement. Et heureusement, il y a quelques personnes qui nous ont fait confiance, vraiment. Je peux citer... Marie-Laure Sautit-Chalon, qui est la patronne du groupe au féminin, qui m'a fait confiance juste sur la base d'un petit déjeuner. Elle m'a dit « nous, on développe les activités mobiles du groupe, notamment Marmiton. Je te signe un contrat pour que tu déploies ta technologie et que tu viennes aider mon équipe à être meilleur sur le mobile. » Et vraiment, c'était un des premiers contrats qu'on ait gagné. Ça a donné confiance à toute l'équipe d'avoir vraiment réussi à convaincre un aussi gros groupe que le groupe au féminin. Thank you. on a vraiment réussi à boucler la boucle, ce qui n'était pas gagné. On a finalisé la première version de la plateforme en 2015. On s'est mis à la commercialiser auprès de grands comptes en 2016. Et en 2017, quelques chiffres, on a envoyé 50 milliards de messages dans l'année. Il y a plus de 5000 applications qui servent de notre technologie dans le monde. On a plus de 500 clients, dont quasiment un tiers du CAC 40. On a réembauché pas mal de monde, donc on est une trentaine de collaborateurs. On a une très belle croissance d'activité économique. On fait plus 13% de croissance de chiffre d'affaires depuis 18 mois. Donc c'est vraiment une très belle aventure qui renaît. Une aventure qu'on mène un peu différemment, plus du tout dans une logique d'hypercroissance, de levée de fonds, comme on avait fait avec AppGratis, mais beaucoup plus dans une logique de développement économique pérenne, très, très attentif à la rentabilité de la société, à pas surinvestir, à croître, comme on dit, de manière organique. Donc on fait les choses très différemment de comme je l'avais fait avec AppGratis. J'ai de nouveau du succès avec Batch, qui est une boîte beaucoup moins médiatisée et visible que l'était AppGratis, et ça me va pas mal comme ça d'ailleurs. Je sais pas très bien quel est mon rapport au succès, mais je le recherche beaucoup moins avec frénésie comme ça avait pu être le cas dans mes jeunes années, où en fait, je pense qu'avec AppGratis, j'avais voulu avoir du succès et je m'en étais donné les moyens. Je pense que quand tu mûris un peu, que tu vieillis, tes indicateurs de succès sont forcément plus tout à fait les mêmes. Je pense que le succès aussi d'un entrepreneur, c'est d'arriver à passer du temps avec sa famille, avec ses amis, de pouvoir développer ses passions personnelles et de pas être complètement l'esclave de sa boîte. Moi, j'ai plusieurs expériences qui se sont faites un peu au détriment de mes proches, de mes amis, de ma famille. Tout simplement au détriment du temps passé avec eux. Et que ça, on peut planter une boîte, perdre beaucoup d'argent, devenir un paria. On peut toujours rebondir. Mais en revanche, le temps qu'on passe pas avec son père, sa mère, ses grands-parents, dans des années où on peut assez facilement se faire happer par la mythologie des startups, créer une boîte, s'y consacrer, ça, c'est du temps qu'on retrouve pas. Moi, j'ai perdu mon grand-père en 2015. Bon, j'étais extrêmement proche et même si j'avais vraiment fait l'effort, parce qu'on s'adorait de passer beaucoup, beaucoup de temps avec lui, d'aller le voir le plus souvent possible, rétrospectivement, je me dis que probablement j'ai loupé quelques opportunités d'être avec lui parce que j'étais dans tel ou tel rendez-vous, tel ou tel déplacement professionnel, à essayer de lever de l'argent avec tel ou tel investisseur. Voilà, et ça, c'est du temps que tu ne retrouves jamais. Donc ça, il faut essayer de le garder à l'esprit et pas s'en préoccuper une fois qu'on l'a perdu. Si je regarde les 10 dernières années, j'ai eu l'impression quand même d'avoir eu la chance, malgré mes échecs, de vivre des aventures fortes et fondatrices. Comme disait le grand-père charentais d'un ami, il vaut mieux avoir des ennuis que s'ennuyer. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et de ça, je suis quand même assez reconnaissant.
Merci à Simon d'être venu dans le sillage des EcoStart et à vous d'avoir écouté son histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes de cette première saison de sillage et de les partager et d'en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires, des likes et des étoiles, ça nous fait du bien. Sillage est sur SoundCloud, sur iTunes ou sur les applications de podcast pour Android. La musique de cet épisode a été composée par Ravi Alba. La prise de son et le mixage sont de Geoffrey Bonshomme. Si vous avez des questions à nous poser ou des suggestions à nous faire, écrivez-nous à redaction-6start@leseco.fr ou contactez-moi directement sur Twitter @LOYDEBORA. Si vous êtes encore là, ça signifie que vous aimez les podcasts, alors je me permets de vous conseiller de jeter une oreille à celui de mon collègue aux Échos, Guillaume Brégeras. Ça s'appelle Take Off et vous y entendrez Guillaume prendre le petit-déj avec des entrepreneurs super inspirants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Déborah Loy et j'ai hâte de vous retrouver dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.